Vous êtes avec SBS French. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 262 nouveaux cas locaux de COVID-19 ce dimanche. Une femme âgée de 80 ans qui résidait au Wyoming Residential Age Care à Summerhill et qui n'était pas vaccinée est décédée du virus à l'hôpital Royal Prince Alfred. Le chef adjoint de la santé, Jeremy McNulty, a déclaré que les résidents de Georges River pourraient être libérés des zones préoccupantes si des taux de tests élevés peuvent être maintenus au cours des prochains jours. Mais il déclare que 12 banlieues de Penrith seront ajoutées aux 8 zones de préoccupation du gouvernement local de Sydney et seront soumises aux mêmes restrictions les plus sévères.
Now we've seen the front of the epidemic move into parts of Penrith adjacent to the areas in Western Sydney and Southwestern Sydney. So we're concerned and the additional restrictions will help contain that outbreak emerging there. The suburbs affected, which are adjacent to Cumberland and Liverpool LGAs, Cadens, Claremont Meadows, Colleton, Erskine Park, Kemps Creek, Kingswood, Mount Vernon, North St Mary's, Orchard Hills, Oxley Park, St Clair and St Mary's.
Alors que les résidents de Sydney entrent dans la 7e semaine de lockdown, de verrouillage, New South Wales Health a lancé une nouvelle campagne de vaccination appelée Super Sunday. Toute personne âgée de 18 ans et plus est invitée à s'inscrire dès aujourd'hui au centre de vaccination du parc olympique de Sydney pour l'un des 4000 vaccins AstraZeneca. New South Wales Health appelle les travailleurs des supermarchés et de l'approvisionnement alimentaire des 8 zones de gouvernement local les plus touchées par le virus à se manifester pour leur vaccin. Les rendez-vous pour les vaccins d'AstraZeneca sont disponibles au Sydney Olympic Park depuis ce matin 10h jusqu'à 16h. Cela survient alors que la région d'Armidale, dans les Northern Tablelands, commence un verrouillage de 7 jours. Et les ouvriers du bâtiment pourront retourner sur les chantiers en Nouvelle-Galles du Sud à partir de mercredi prochain, 11 août. Une nouvelle enquête des syndicats de Nouvelle-Galles du Sud montre que près d'un travailleur sur deux déclare avoir été exposé à un risque de COVID au travail. L'enquête auprès de près de 3000 travailleurs de l'éducation, de la fabrication, des services professionnels et de la santé a été réalisée fin juillet et début du mois d'août. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent s'attendre à ce que la situation sanitaire et économique de l'État se détériore davantage. Cela a incité les syndicats à demander un vaccin universel et un congé de dépistage pour les travailleurs, soulignant que les taux de vaccination plus faibles sont dans les banlieues du sud-ouest de Sydney. Le lockdown dans le sud-est du Queensland se terminera comme prévu à 16h cet après-midi, alors que l'État enregistre 9 autres cas de COVID-19. Mais Cairns et Yarraba, au nord de l'État, entreront dans un verrouillage de 3 jours après qu'un chauffeur de taxi ait été testé positif au virus. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que l'homme était dans la communauté depuis au moins 10 jours alors qu'il était contagieux.
Unfortunately, this discovery of a positive case in Cairns is something that we were not expecting. And we really need the residents of Cairns to come forward with any symptoms and get tested. Exactly what's been happening with the 11 LGAs. And down here, everyone has been doing a great job. Any symptoms, go and get tested. Now, this person has been infectious in the community for 10 days. That is of real concern.
Le Victoria a enregistré 11 nouveaux cas de COVID-19 ce dimanche. Tous les nouveaux cas sont liés à des infections connues, mais aucun n'était en quarantaine alors qu'il était infectieux. La liste des sites d'exposition de l'État est passée à plus de 140, dont le Mount Alexander College à Flemington et un chantier de North East Link Project à Yallambee dans le nord-est de Melbourne. Les autorités avertissent également les habitants des régions de Glenroy et de Broad Meadows qu'il y a eu des fragments du virus récupérés lors des tests d'eau usée là-bas. Les épidémiologistes avertissent que le verrouillage actuel du Victoria va peut-être s'étendre au-delà des 7 jours prévus. Le gouvernement fédéral va fournir 150 000 doses du vaccin Pfizer pour le Victoria. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que l'hésitation à la vaccination en Australie a commencé à diminuer. Plus de 1,3 million de vaccins ont été effectués à travers le pays au cours de la semaine dernière, soit près du double de celui d'il y a quelques mois. Greg Hunt a confirmé qu'un million de doses du vaccin Moderna sont attendues en Australie en septembre sous réserve de l'approbation de la Therapeutic Goods Administration. Selon lui, l'accélération des taux de vaccination montre que le système aura la capacité de s'accélérer pour fournir 2 millions de doses par semaine, comme prévu en octobre prochain.
Australians are stepping forward to be vaccinated in record numbers. And we see that the hesitancy is down and our intention to vaccinate is up. Our latest reporting to the federal government on our monthly tracking is an intention to vaccinate of 77%, with approximately 13% who are considering. And we would say to every single one of those people, please take the decision to be vaccinated.
237 000 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire en France hier. À Paris, des milliers de personnes ont participé pour la première fois à des manifestations. Marine de la Moissonnière était dans un des cortèges de la capitale pour Radio France Internationale.
Dans le cortège, beaucoup de manifestants sont là pour la première fois. La décision du Conseil constitutionnel qui a validé l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines professions a été un électrochoc pour certains, à l'image de Stéphanie, assistante commerciale de 52 ans.
Je suis écœurée, j'ai même pas les mots, j'en revenais pas et je me dis c'est pas possible que ça en reste là, quoi. Je peux pas rester chez moi dans le canapé, c'est impossible. Je veux participer. C'est les vacances, il pleut, j'ai plein de choses à faire chez moi, mais je pouvais pas ne pas venir, faut bouger.
Des manifestants remontés donc, même au cœur de l'été, et qui pensent qu'ils seront rejoints par d'autres dès que les conséquences concrètes de la loi se feront sentir. Beaucoup prédisent une rentrée explosive, comme Rania, claire de notaire de 50 ans.
Au retour des vacances, je pense qu'il y aura un plus gros impact parce que les gens vont avoir conscience de ce qui se passe. Parce que là, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait conscience, ils préfèrent penser aux vacances. C'est normal, ils veulent décompresser parce que c'est trop tendu en ce moment. Il y a une telle pression, il y a un trop plein d'informations contradictoires en plus. Donc c'est plutôt à la rentrée, ça va chauffer.
D'ici là, pas question de se démobiliser. Certains appellent déjà à de nouvelles manifestations samedi prochain.
Et puis maintenant un mot sur la situation politique en Haïti, dans le sillage de l'assassinat du président Jovenel Moïse il y a un mois. 44 personnes sont en prison, mais l'enquête piétine. Précision d'Anne Mignard pour RFI.
Dans la tourmente, après l'assassinat de son président il y a tout juste un mois, l'île peine à trouver une relative stabilité politique. Depuis le drame, le pays est divisé par et dirigé par Ariel Henry, un premier ministre intérimaire jugé illégitime par une majeure partie de la population. Gershan Bastia, musicien et militant du mouvement anticorruption Petro-Caribe Challenge, nourrit l'espoir que l'île sorte de la crise sans ingérences étrangères, notamment celle des États-Unis. Écoutez-le.
Il contrôle tout, il essaie de nous imposer des solutions toutes faites qui n'a pas marché, qui ne marche pas et qui ne marchera pas. Parce qu'il faut partir sur des bases solides pour réaliser des élections. Parce que si on va réaliser des élections rapides, ça ne va pas marcher. Ça va donner d'autres crises, 30, 40 ans de crise. Parce qu'en général, ce sont des élections truquées, des élections contestées qui donnent la base aux crises politiques, aux instabilités politiques en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'encourage encore une fois l'initiative de la société civile pour une solution haïtienne à la crise. Ça veut dire qu'il y a des gens, des personnes conséquentes, des haïtiennes et haïtiens solides qui se disent que nous pouvons nous mettre ensemble pour qu'on part sur de nouvelles bases, pour qu'on crée une situation de stabilité dans le pays, pour que le pays avance.
En Afghanistan, maintenant avec les talibans qui poursuivent leur offensive. Hier, ils se sont emparés de la ville de Shebergan, dans le nord-ouest du pays. C'est la deuxième capitale provinciale à tomber aux mains des insurgés. Vendredi, la capitale Zaranch est tombée. Analyse de Gilles Doron-Soro, expert de l'Afghanistan et professeur de sciences politiques à Paris 1.
La conquête de ces deux villes, c'est pour la première fois des capitales provinciales qui tombent aux mains des talibans. Donc c'est symboliquement et militairement un événement important. Deuxièmement, c'est le signe que tout l'ouest et le sud de l'Afghanistan sont en train de tomber aux mains des talibans, ce qui présage d'autres chutes de capitales provinciales dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, on a des combats à l'intérieur de Lashkargah, une grande ville du sud. 90% de la ville est aux mains des talibans. Il ne reste plus qu'une base militaire et quelques bâtiments officiels qui sont aux mains du gouvernement. Donc cette ville pourrait tomber assez vite. On a aussi les talibans ont une position très forte dans le Badriz, dans l'ouest. Donc on a une dizaine de villes où les talibans pourraient remporter la victoire dans les semaines qui viennent.
Le nord de l'État de la Californie, ravagé par ce qu'on appelle la Dixie Fire, le troisième plus gros incendie de l'histoire de l'État, avec 170 000 hectares disparus depuis mi-juillet. Précision de Sofia Katsankova pour RFI.
C'est le troisième plus gros incendie de l'histoire récente de la Californie et sa progression pourrait se poursuivre selon des scientifiques. Les rafales de vent attendues dans les prochains jours pourraient attiser le feu selon les autorités. Plus de 5000 pompiers sont mobilisés pour combattre les flammes, mais ces coups de vent violents, en plus d'une végétation très sèche et un terrain compliqué, rendent leurs efforts très difficiles. Ce mercredi, l'incendie a détruit la ville historique de Greenville. Sur les vidéos des médias locaux, la ville est totalement méconnaissable. Les maisons et les voitures ont été englouties par les flammes, laissant cette ville de 800 habitants réduite en cendres. Les flammes du Dixie Fire sont si importantes qu'elles génèrent une épaisse fumée noire, visible depuis l'espace. Même si les incendies sont courants en Californie, ils deviennent de plus en plus ravageurs chaque année. Pour cause, la sécheresse prolongée liée au changement climatique a rendu l'ouest des États-Unis vulnérable à des feux de forêt de telle ampleur. 7 des plus grands incendies de l'histoire de la Californie, dont le Dixie Fire, se sont produits au cours des 3 dernières années seulement.
Et la Grèce a lancé un appel à l'aide via le système d'aide d'urgence de l'Union européenne. Des pompiers et des avions sont arrivés de France, d'Ukraine, de Croatie, de Suède, d'Israël, de Roumanie et de Suisse. Les incendies de forêt font rage en Grèce et ont tué un pompier volontaire dans un incendie menaçant le parc national le plus important de la capitale, Athènes. Les autorités disent qu'il peut y avoir un peu d'espoir alors que le pays subit sa vague de chaleur la plus intense en 30 ans. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a déclaré que la situation s'était légèrement améliorée.
The situation today is a little better than yesterday. We must continue with great intensity the effort to limit all fires and not to have any risk of re-ignition. The priority of the last few days has been first and foremost the protection of human life, to the extent that it is possible to protect properties, especially for the fire not to enter settlements, and of course the protection of critical infrastructure.
L'année 2021 va être mauvaise pour la production française de vin. Selon le ministère de l'Agriculture, cette production devrait chuter entre 24 et 30% cette année par rapport à 2020, une baisse due aux intempéries. Patricia Lecomte, RFI.
Il y a d'abord eu les épisodes sévères de gel printanier durant la première quinzaine d'avril, avec plusieurs nuits successives de gel, alors que la vigne avait déjà bourgeonné en raison d'un hiver doux. Malgré les efforts déployés par les vignerons, qui durant plusieurs nuits ont allumé des feux pour tenter de réchauffer la température, les vignes ont été endommagées. Un autre facteur est venu aggraver la situation, un début d'été pluvieux qui a favorisé le développement des maladies de la vigne, comme le mildiou et l'oïdium. La quasi-totalité du vignoble français a donc été touchée, par conséquent, la production française de vin devrait être historiquement basse cette année. Selon Agrest, le service des statistiques du ministère de l'Agriculture, elle devrait se situer entre 32,5 millions et 35,5 millions d'hectolitres, contre presque 50 millions l'année dernière. 2021 restera une année noire pour les viticulteurs. La production sera inférieure à celle des années 1991 et 2017, toutes deux frappées également par un gel printanier important.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 20 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 13. Canberra, 14. Sydney, 17. Brisbane, 23. Cairns, 26. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximal de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce 8 août, la Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 262 nouveaux cas locaux de Covid-19 et un autre décès ce dimanche. Un chauffeur de taxi testé positif au Covid met la ville de Cairns en lockdown. Et mission accomplie au JO de Tokyo pour les Boomers qui remportent une médaille historique. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.